Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Recueillons-nous pour quelques instants et méditons ensemble sur les versets 1 à 7 de la Sainte Sourate Maun. Nous vous en présenterons tout d'abord la lecture chantée et ensuite la traduction.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين أرأيت فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم
Vois-tu qui traite de mensonge la rétribution? Or, c'est celui qui repousse l'orphelin et qui n'incite point à nourrir le pauvre. Malheur donc aux célébrateurs d'office qui sont négligents dans leur office. Ceux-là qui font ostension et jettent l'interdit sur la chose d'utilité courante.
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
grâce au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Très chers amis auditeurs, bonsoir. Bienvenue à l'écoute de Radio Téhéran en ce mardi 30 avril 2024. Dans quelques instants, je vous présenterai le journal d'information suivi d'un commentaire politique. La négligence d'Israël à l'égard du droit international témoigne d'une dévalorisation des droits de l'homme, selon Amnesty International. Mes collègues vous présenteront ensuite la seconde partie de cette émission. Merci de votre écoute. Restez avec nous. La sécurité du golfe Persique doit être assurée uniquement par les États riverains, a souligné le ministre iranien des Affaires étrangères. Le Yémen a frappé plusieurs navires dans le cadre de nouvelles opérations défensives pro-palestiniennes. Et des dizaines d'étudiants pro-palestiniens se sont rassemblés à la Sorbonne pour exiger un cessez-le-feu à Gaza. C'était les principaux titres. En voici le journal. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdollahian, a déclaré que la sécurité du golfe Persique ne sera assurée que par la participation de tous les États riverains et que la négligence de toute partie concernée serait inacceptable. Hossein Amir Abdollahian a fait cette déclaration à l'occasion de la journée du golfe Persique, le 10 Ordi Behesht, célébrée chaque année, le 29 avril ou 30 avril. Le golfe Persique, en tant que voie de transit unique entre l'Europe, l'Afrique, l'Asie du Sud et l'Asie du Sud-Est, fait partie d'un important passage de connexion mondiale impliquant l'océan Atlantique, la mer Méditerranée, la mer Rouge et l'océan Indien, a déclaré Amir Abdollahian. Le golfe Persique a une très grande importance du point de vue historique, civilisationnel, géographique, culturel et divers aspects économiques, politiques, énergétiques et géopolitiques, a-t-il encore ajouté. Le ministre iranien des Affaires étrangères a décrit la sécurité comme une question complexe et multidimensionnelle qui peut être définie par la coopération collective, le renforcement des liens et la création des mécanismes politiques, économiques et sociaux. La sécurité du golfe Persique sera assurée uniquement avec la participation de tous les pays riverains. Et à cette fin, aucune négligence ne sera acceptée, a déclaré le ministre iranien des Affaires étrangères. Le commandant de la marine iranienne, le contre-amiral Shahram Irani, a annoncé lundi 29 avril, à l'occasion de la journée du golfe Persique, le 10 Ordi Behesht qui tombe cette année le 29 avril, que les forces navales du pays escortent les navires et pétroliers iraniens dans le golfe d'Aden et le sang atlantique pour assurer leur sécurité. Le golfe Persique est aujourd'hui considéré comme la région maritime la plus sûre au monde et nous escortons essentiellement nos navires dans des zones telles que le golfe d'Aden et le sang atlantique. Nous escortons nos navires dans les zones où sont présents les ennemis de la République islamique et nos marins et marchands répondent ainsi aux besoins économiques du pays en toute sécurité. A précisé le contre-amiral Shahram Irani. Il a également décrit le golfe Persique comme un symbole de la puissance du pays et a déclaré que les Iraniens avaient prouvé leur prouesse navale sur cette voie navigable stratégique en moins de 67 jours après le début de la guerre imposée par l'Irak à l'Iran dans les années 1980. Le commandant de la marine a affirmé que la sécurité des ports iraniens avait été pleinement assurée pendant la guerre imposée et ont abouti à des victoires consécutives des forces armées iraniennes. Le golfe Persique, qui s'étend sur quelque 251 000 km², est délimité au nord par le fleuve Arvand, qui forme la frontière entre l'Iran et l'Irak, et au sud par le détroit d'Ormuz, qui relie le golfe Persique à la mer d'Oman et le sang indien. Le golfe Persique est une route commerciale internationale reliant le Moyen-Orient à l'Afrique, à l'Inde et à la Chine. Le porte-parole des forces armées yéménites, le général de brigade Yahya Sari, a fait état le lundi 29 avril de plusieurs opérations pro-palestiniennes en mer Rouge dans une déclaration vidéo. Les forces armées du Yémen ont mené plusieurs opérations pour défendre le pays et pour montrer leur solidarité avec les Palestiniens de la bande de Gaza qui subissent une guerre génocidaire de la part du régime israélien. Selon le général Sari, les forces armées yéménites ont mené des opérations militaires contre des navires de guerre hostiles dans la mer Rouge, notamment en ciblant deux navires de guerre américains avec plusieurs drones. Les opérations ont atteint leurs objectifs, a-t-il précisé. Les navires de guerre américains et britanniques ont mené des attaques contre la nation de la péninsule arabe pour tenter de mettre un terme aux frappes qu'elle mène contre les navires israéliens. Le général Sari a ensuite annoncé une opération conjointe de plusieurs subdivisions de l'armée de Sana, dont les unités de missiles et de drones contre un autre navire qu'il a identifié comme étant Cyclate. Le navire, a ajouté Sari, a essuyé des tirs alors qu'il naviguait dans la mer Rouge en direction des ports de Palestine occupés. Les forces yéménites ont également tiré plusieurs drones vers le navire israélien MCS Orion alors qu'il naviguait dans l'océan Indien, également indiqué le haut gradé de l'armée yéménite. Il a conclu son discours en promettant que le pays ne cessera pas ses opérations pro-palestiniennes tant que le régime occupant poursuivra la guerre et le blocus sur la frange côtière. Les forces armées yéménites ont mené de nombreuses frappes pro-palestiniennes depuis le 7 octobre, lorsque le régime israélien a commencé la guerre. Près de 35 000 Palestiniens ont été tués et près de 68 000 autres blessés depuis le début de cette guerre qui a succédé à l'opération de la résistance palestinienne nommée la tempête d'Al-Aqsa. L'armée israélienne a mené une nouvelle série de frappes aériennes sur la bande au Gaza, tuant au moins 34 Palestiniens, alors que le roi affirme que Gaza est devenue une ville de morts et de fantômes. L'agence de presse palestinienne Wafa a rapporté, ce lundi 29 avril, que 26 des victimes ont perdu la vie dans les attaques aériennes israéliennes contre les zones à l'ouest de Rafah, dans le sud de Gaza. Les avions de guerre du régime occupant ont également visé une maison dans le camp de réfugiés de Nusayrat, dans le centre de Gaza, tuant 3 civils et en blessant 2 autres. Une attaque de drone israélien a également tué 2 civils et en a blessé plusieurs autres, dans une maison du quartier d'Al-Tufa, dans la ville de Gaza. De plus, les quartiers d'Al-Daraj et de Sheikh Radwan à Gaza ont été bombardés par des avions de combat israéliens. Pendant ce temps, des attaques d'artillerie israélienne ont frappé la ville de Jabala et les zones au sud de la ville de Gaza, notamment Jour Adik. Le chef de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens, le roi, a déclaré dans un message sur les réseaux sociaux que Gaza, qui était autrefois dynamique, est devenue une ville de morts et de fantômes. Reconstruire n'est pas seulement une question de briques et de pierres, c'est une question de guérison et de dépassement, a déclaré Philippe Lazzarini en ajoutant « Plus la guerre est longue, plus nous nous en éloignons. » 3 missiles ont été tirés lundi soir en direction de la base israélienne de Reistat al-Alam dans la région occupée de Kfar Chouba au Liban. Plus tôt lundi matin, les brigades Rassam, branche militaire du Hamas, ont bombardé depuis le sud du Liban le quartier général de la 769e brigade de l'Est de l'armée israélienne avec un barrage de missiles concentrés. Des cibles dans la région de la Haute-Galilée, dans le nord des territoires occupés, ont été frappées depuis le sol libanais, a rapporté la chaîne libanaise Al-Mayadin. La frontière du Liban avec les territoires occupés palestiniens a été le théâtre d'une escalade des tensions ces derniers jours. Dans le même temps, les autorités sionistes ont menacé de mener des attaques à grande échelle contre le Liban. En même temps, le journaliste Al Jazeera a fait part des tirs d'artillerie sur les régions de Kfar Chouba et Kfar Hammam dans le sud du Liban. Ces affrontements se sont intensifiés suite aux attaques du régime sioniste contre des civils au Liban et aux violentes attaques de représailles du Hezbollah contre des positions et des bases militaires du régime sioniste. Plusieurs dizaines d'étudiants pro-palestiniens se sont rassemblés le lundi 29 avril dans la célèbre université parisienne Sorbonne pour demander un cessez-le-feu dans la bande au Gaza. Après que les gendarmes et policiers les ont évacués de l'université, le rassemblement se poursuivait dans la rue. L'appel lancé par les étudiants de Sciences Po, soutenant le peuple palestinien dans la bande au Gaza, a trouvé un écho. Le lundi 29 avril, à la mi-journée, plusieurs dizaines d'étudiants se sont rassemblés à la Sorbonne pour une mobilisation en solidarité avec la population de Gaza, devant le bâtiment et à l'intérieur de l'université, où ils ont installé des tentes. Selon le mouvement Révolution Permanente, ces manifestants ont organisé un campement en solidarité avec la Palestine dans le but d'exiger la fin du génocide. En début d'après-midi, la cinquantaine de militants mobilisés a finalement été évacuée par les forces de l'ordre, à la demande de Gabriel Attal. Malgré l'évacuation, la manifestation a repris de plus belle dans la rue. Lors de ce rassemblement, les manifestants avaient déployé un ample drapeau orné de fausses taches de sang et scandé des slogans en soutien aux Palestiniens, y compris « Gaza, Gaza, Sorbonne est avec toi » et « Israël assassin, Sorbonne complice ». Le secrétaire général des Nations Unies, Antony Guterres, a appelé à une élection présidentielle pacifique et crédible au Tchad, a déclaré lundi 29 avril son porte-parole Stéphane Dujarric. À l'approche du premier tour de l'élection présidentielle au Tchad, le 6 mai, le secrétaire général exhorte toutes les parties prenantes tchadiennes à garantir un processus électoral pacifique, inclusif, transparent et crédible, a-t-il indiqué dans un communiqué. Selon le communiqué, Antony Guterres a également encouragé tous les dirigeants politiques tchadiens à s'abstenir de tout acte ou discours susceptible de compromettre un processus pacifique, à surmonter tout désaccord par le dialogue et à répondre aux plaintes qui pourraient survenir par les voies légales établies. Le secrétaire général, ajouté le porte-parole, a par ailleurs réitéré l'engagement des Nations Unies à continuer de soutenir le Tchad dans ses efforts pour construire un avenir pacifique et prospère. Voilà, ainsi s'achève le journal. Merci de l'avoir suivi. Restez à l'écoute du commentaire politique. La négligence d'Israël à l'égard du droit international témoigne d'une dévalorisation des droits de l'homme. Un rapport publié par Amnesty International met en garde contre la détérioration de la situation des droits humains compte tenu de la négligence mondiale envers Gaza et du mépris des crimes commis par les alliés occidentaux. Amnesty International a déclaré que l'anarchie, la discrimination et l'impunité dans les guerres ont été encouragées par l'utilisation sans filtre des nouvelles technologies comme l'intelligence artificielle, qui sont désormais utilisées comme armes par les acteurs militaires, politiques et industriels. Le rapport prévient que l'intelligence artificielle va très probablement catalyser l'effondrement de l'état de droit, couplé au pouvoir des big tech qui accentuent les violations des droits humains. Le mépris flagrant d'Israël pour le droit international est aggravé par l'incapacité de ses alliés à mettre fin à l'effusion de sang indescriptible entre civils à Gaza. Beaucoup de ses alliés ont été les architectes mêmes du système juridique de l'après-seconde guerre mondiale, regrette le rapport d'Amnesty International. Agnès Callamard, secrétaire général d'Amnesty International, a déclaré que ce qui s'est passé en 2023 confirme que de nombreux États puissants abandonnent les valeurs fondatrices d'humanité et d'universalité inscrites dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. Elle a noté que ce rapport dresse un tableau sombre d'une répression alarmante des droits de l'homme et d'une violation prolifique des règles internationales. Callamard prévient que les applications non réglementées de l'intelligence artificielle générative, des logiciels espions et de la reconnaissance faciale dans un monde de plus en plus précaire sont sur le point de devenir un ennemi pernicieux, intensifiant et aggravant les violations du droit international et des droits de l'homme à des niveaux exceptionnels. Le rapport donne, pour exemple, l'utilisation néfaste et omniprésente de la reconnaissance faciale en Cisjordanie occupée qu'Israël utilise pour renforcer les restrictions à la liberté de mouvement et l'aider dans des méthodes d'occupation. Le rapport parle encore de deux poids, deux mesures, ce qui s'avère intéressant, surtout après que le Royaume-Uni vient de publier sa feuille de route 2030 pour les relations bilatérales entre le Royaume-Uni et Israël. Le rapport a publié une déclaration qui ne pouvait être ni modifiée ni résumée d'une autre manière. Dans un conflit qui a défini 2023 et ne montre aucun signe d'apaisement, les preuves de crimes de guerre continuent de s'accumuler alors que le gouvernement israélien se moque du droit international à Gaza.
Amis téléspectateurs, amis auditeurs, bonjour, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition du débat. Nous allons nous focaliser pour cette édition aux manifestations d'étudiantes aux États-Unis, en Europe et en d'autres coins du monde. Avec ces surprenantes réactions aux manifestations estudiantines pour Gaza aux États-Unis, la police a évacué les manifestants installés sur les campus violemment. Il s'agit de la répression violente des policiers, les étudiants qui protestaient sur les campus. En France aussi, les rassemblements à Sciences Po ont été traités comme une grave menace pour l'ordre public et les accusations d'antisémites aussi. On va s'intéresser à toutes ces réactions avec nos deux experts qui nous rejoignent tout de suite après un petit reportage. Restez avec nous. Merci.
La mission permanente de l'Iran auprès de l'Office des Nations Unies à Genève a catégoriquement condamné la répression actuelle des manifestations pro-palestiniennes dans les universités américaines, soulignant que la violence contre les manifestants pacifiques ne les ferait pas taire. Alors que la guerre génocidaire menée par Israël contre les Palestiniens dans la bande de Gaza, soutenue par les États-Unis, a dépassé le cap des 200 jours, les principales universités américaines ont été le théâtre d'affrontements entre étudiants et policiers au milieu d'une intensification des protestations condamnant la guerre du régime israélien dans le territoire assiégé. Plus de 20 universités américaines protestent contre la guerre où plus de 34 000 personnes ont été tués depuis octobre de l'année dernière, dont des femmes et des enfants. Les étudiants appellent leurs universités à rompre les liens avec toute entreprise qui fait avancer la guerre du régime usurpateur sioniste contre Gaza. La police a arrêté des centaines de manifestants sur les campus universitaires. Les manifestants réclament précisément la fin de la complicité américaine dans le génocide en cours à Gaza. Expulser et frapper des manifestants pacifiques nous réduit non seulement pas au silence ces défenseurs des droits humains, mais nous fait réaffirmer l'urgence de la lutte pour la justice en faveur de la Palestine, a ajouté la mission. Les attaques de la police contre des étudiants et des professeurs d'université, l'ampleur des arrestations et les conditions de détention sont profondément inquiétantes et nous appelons à la libération de tous les détenus. Les États-Unis fournissent à Israël un soutien militaire, financier et en matière de renseignement sans restriction depuis le 7 octobre, lorsque le régime a déclenché la guerre contre l'enclave palestinienne assiégée. Washington octroie à Israël 3,8 milliards de dollars d'aide militaire chaque année. Le président américain Joe Biden a continué de fournir un soutien sans faille à l'entité illégale au milieu de la guerre à Gaza. Mercredi, Biden a promulgué un plan de financement massif qui fournira 17 milliards de dollars supplémentaires au régime occupant israélien. Washington a également opposé son veto à plusieurs résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies appelant à l'établissement d'un cessez-le-feu dans la bande de Gaza.
Voilà pour le reportage. J'ai le grand plaisir de recevoir sur notre plateau au téléphone notre première invitée de marque. Il s'agit de Xavier Dupré, économiste universitaire belge. Bonjour. Bon, apparemment, il y a un problème du son. Notre deuxième invité, il s'agit de M. Bernard Cornou, analyste politique, spécialiste au Moyen-Orient, auteur de plusieurs articles sur la région. Bonjour, M. Dupré. M. Cornou.
Oui, bonjour. Je suis présent effectivement à Paris ces jours-ci sur Skype.
Et M. Dupré, vous êtes avec nous? Vous m'entendez? Bon, pas pour le moment. J'espère qu'on va avoir M. Dupré après l'analyse, première analyse et l'ouverture de M. Cornou. Alors, des universitaires américains transformés en casernes militaires, selon les qualifications apparues dans les médias. Des universités mondiales soutiennent le soulèvement des étudiants aux États-Unis. Des professeurs américains soutiennent les étudiants pro-palestiniens. Alors, les réactions étaient très surprenantes. La répression, l'arrestation, les professeurs menottés. Alors, comment réagissez-vous face à ces réactions et ces évolutions, ce soulèvement en un mot?
Oui, attention, en utilisant ce mot de soulèvement, qui en arabe se dit intifada, ce matin, sur une télévision publique, Public Sénat, la journaliste a reproché à la personne qui était interviewée, il s'agissait du député de la France Insoumise, Manuel Bompard, lui a reproché que Madame Rima Hassan ait dans un court SMS ait évoqué ce mot de soulèvement en allusion qui est traduit en arabe vers intifada. Ça voulait dire que cette journaliste supposait que Madame Rima Hassan, donc la LFI, le parti LFI, appelait à une révolte telle qu'elles ont été en Palestine par deux fois contre une très vieille occupation, les soulèvements qui étaient à la fois pacifiques, des grèves, et aussi parfois des soulèvements armés, parce que face à une occupation armée depuis 56 ans, 55 ans, on peut évidemment supposer qu'il y a parfois des soulèvements qui sont armés. Mais en France, il n'est pas question, les manifestations ont toujours été pacifiques, il n'y a pratiquement jamais eu de mots antisémitiques ou de cris « mort aux Juifs », sauf effectivement quand des ultras d'extrême droite ont, aux États-Unis, ça s'est passé, crié « mort aux Juifs » pour faire croire que c'était des manifestants pro-palestiniens qui le disaient. Et dans ces manifestations, que ce soit en France, aux États-Unis et ailleurs, il y a souvent, et à Londres, j'en ai vu moi-même, des manifestants, des associations qui se proclament elles-mêmes juives, juives pour la paix ou des juifs plutôt traditionnalistes. Et donc ces manifestations se déroulent bien. Elles sont effectivement un soulèvement du cœur, de la sympathie, de la compassion envers ce désastre qui se passe à Gaza sous nos yeux, cette monstrueuse agression de l'État israélien et de son armée qui a tué maintenant près de plus de 35 000 morts, personnes, la plupart des civils, et qui continue aussi à agresser les villages et les villes en Cisjordanie, en faisant déjà aussi des centaines de morts depuis quelques mois.
Merci beaucoup, Monsieur Cournot. Alors, étant donné que ces manifestations ont sorti tout d'abord de l'université américaine de Columbia, alors Sciences Po de Paris et son homologue française, alors quelle est l'importance de cette université et pourquoi il y a des coopérations en tant qu'homologue entre les deux universités? Donc, vous voulez dire que la réaction n'est pas la même, ou bien la ligne que les étudiants suivent n'est pas la même?
Ici est tout à fait la même. Les étudiants protestent fermement, y compris par des occupations pacifiques de leur campus ou de leurs locaux, comme ça a été le cas à Sciences Po, où à peu près une cinquantaine d'étudiants et d'étudiantes, français et étrangers, avaient occupé les locaux, fermé les portes pour pouvoir imposer une négociation avec la direction sur des objectifs très simples pour autoriser un débat politique, géopolitique sur cette affaire, cette question de Palestine et d'agression à Gaza, et donc aussi pouvoir inspecter, regarder de près les coopérations en cours entre Sciences Po Paris ou les Sciences Po des provinces, Grenoble, Lille et ailleurs, pour voir s'il y avait dans ces coopérations dans ces partenariats des choses qu'on pouvait reprocher politiquement, c'est-à-dire s'il y avait eu des partenaires israéliens qui étaient des très forts soutiens politiques à la politique de Netanyahou actuelle, envers pour maintenir l'occupation, promouvoir et soutenir la colonisation, armer les colons, etc. Donc il s'agissait un peu d'un inventaire de ces coopérations pour voir ce qui devait être un peu suspendu.
Il s'agit des coopérations, pas seulement entre universités, mais coopération avec même le cabinet israélien.
Disons des personnalités, des coopérations là, les universitaires, les étudiants de Sciences Po parlaient des coopérations à titre universitaire, scientifique, dans le domaine des sciences politiques, avec les institutions israéliennes diverses.
Merci beaucoup.
Mais aussi, les étudiants demandent aussi, généralement, dans toutes les universités, dans toutes les manifestations françaises, elles demandent aussi que le gouvernement français soit beaucoup plus ferme et propose des sanctions au niveau français et européen, et éventuellement de l'ONU, pour freiner les envois d'armes et le soutien massif à l'État israélien et à son armée.
Merci beaucoup. Alors, Monsieur Cornu, suite à l'intensification de la répression, de la pression de l'opinion publique, la Maison Blanche est revenue sur sa position. Il a déclaré que bon, les manifestations sont tolérables, mais il faut qu'elles soient pacifiques, alors qu'elles sont déjà pacifiques.
Oui, elles sont pacifiques, mais bon, dans certains règlements. Seuls les étudiants ont accès, les professeurs ont accès au campus. Et effectivement, ils ont utilisé le prétexte, la police a utilisé le prétexte et la direction de certaines universités aussi, pour dire que c'était infiltré dans le campus des personnes qui n'étaient pas étudiants. Et donc, la police demandait aux gens de montrer leur pièce d'identité ou leur carte d'étudiant. Et dans ce cas-là, si les étudiants... si les personnes interpellées étaient étudiantes, elles étaient aussitôt laissées tranquilles. En revanche, voilà, donc c'est effectivement ce prétexte, ça dépend des règlements des universités et des campus, mais la police, effectivement, essaye toujours de trouver un bon prétexte pour pouvoir intervenir. Au début, sans violence, avec des interpellations, des vérifications, et parfois avec des violences, malheureusement. Dès qu'il y a des violences, la police estime autorisée à intervenir. Mais en France, il y a eu des cas où la direction a seulement évoqué le principe d'un risque de danger de violence, et ça a suffi pour faire que la police vienne intervenir. Et ceci est critiquable parce qu'on n'a pas le droit d'intervenir sur des prétendues intentions, mais que sur des faits.
Oui, exactement. Alors, M. Cornu, le premier ministre extrémiste israélien Benjamin Netanyahou a qualifié les manifestations à grande échelle dans les universités américaines et en Europe, dans d'autres coins du monde, en Australie, au Canada, de horribles et antisémites. Il a appelé à la prévention de ces actions qu'il a qualifiées d'inadmissibles. Alors, en réaction, le sénateur américain Bernie Sanders, qui est lui-même un juif, il a accusé Benjamin Netanyahou dans un message d'utiliser le prétexte, la carte d'antisémitisme et d'insulter ainsi la conscience des Américains. Comment réagissez-vous ?
D'abord, j'ai tout à fait beaucoup de respect pour M. Bernie Sanders qui s'était présenté aux élections les précédentes et à la fin s'était rallié à Biden donc, pour éviter que Trump soit élu à cette époque-là, donc il y a 4 ans maintenant. Et donc, il a toujours eu des positions très courageuses, très claires, pour défendre le droit international, la justice, protester contre les guerres qui se sont déroulées, celles contre l'Irak et bien d'autres interventions américaines tout à fait injustes en contredisant le droit international. Donc, lui-même a tout à fait raison de protester, comme nous protestons en France, contre les accusations presque permanentes d'antisémitisme dès qu'on se permet de critiquer les actions du gouvernement israélien et de l'armée israélienne, ce qui est tout à fait, disons, acceptable. Et en fait, des réponses sur l'antisémitisme sont tout à fait intolérables. C'est un moyen de certains milieux de tenter de nous faire taire et de faire taire les oppositions au gouvernement israélien, mais ceci ne marchera pas. Et ceci est dénoncé aussi en France par différentes autorités. Et même le président Macron a confirmé que nous avons le droit de nous exprimer de l'extrême droite à l'extrême gauche en respectant la loi. Mais il est souvent mal informé puisque j'ai bien vu que quelques jours après la manifestation à Londres du 14 octobre, une des premières manifestations qui était autorisée, où j'étais moi-même pendant plus de 3 heures, le président Macron a dit à des jeunes qu'il a croisés dans la rue qu'il interdisait les manifestations parce qu'il y avait des slogans antisémitistes comme à Londres. Or, en fait, j'étais à Londres où il y avait deux associations juives dont j'ai pris les photos, j'ai discuté avec eux. Et donc, tout ceci, ce sont ces manipulations à travers certains conseillers qui tentent parfois de manipuler les politiques ou c'est leur incompétence.
Merci pour ces précisions, Monsieur Cornon. Malheureusement, nous n'avons toujours pas alors notre deuxième expert, Monsieur Dupré, Xavier Dupré. À votre avis, est-ce qu'on assiste à un schisme entre les générations suite à ces réactions à l'échelle universitaire? Et est-ce qu'on assiste à une séparation entre les générations, la jeunesse qui réagit autrement pour Gaza? En Occident.
En tout cas, aux États-Unis, c'est sûr, puisque ça a été dit par des enquêtes que les jeunes sont beaucoup plus sensibles aux événements internationaux, y compris les jeunes qui votent pour le Parti démocrate, enfin qui ont une sensibilité démocrate et qui vont voter normalement pour un candidat démocrate, sont beaucoup plus réactifs, beaucoup plus solidaires de ce qui se passe en Palestine et réagissent, que ce soit de toutes origines, que ce soit des milieux chrétiens ou des milieux juifs et d'autres. Les étudiants sont beaucoup plus sensibles parce qu'ils sont aussi dans un milieu qui est attentif à l'actualité internationale. En France, je pense aussi ceci est vrai. Dans les manifestations, je vois beaucoup de jeunes. À Sciences Po, évidemment, où j'étais sans doute le plus vieux, il y avait surtout essentiellement des étudiants, mais aussi quelques personnes solidaires. Ces étudiants, parce qu'ils sont jeunes, parce qu'ils sont à l'université, et quand même dans nos pays occidentaux et riches, la plupart des jeunes vont à l'université ou dans des écoles d'ingénieurs ou ailleurs, des instituts. Et donc ils sont quand même plus actifs par les réseaux sociaux, par leurs discussions entre eux, par tous leurs séminaires d'information, que ce soit en droit international ou en histoire ou en relations internationales, plus attentifs aux choses. Et donc, comme le disait d'ailleurs le professeur Bertrand Badi, ce matin même, ou il y a deux jours, dans une émission, dans un long entretien, il disait bien que les jeunes ont beaucoup plus d'intérêt et de compassion, non sont réactifs aux deux poids et deux mesures qu'ils constatent, ils sont réceptifs à la souffrance, à l'injustice sociale, peut-être beaucoup plus que leurs aînés, les gens âgés, les gens retraités qui vivent au calme et souvent loin des problèmes internationaux. Donc ce n'est pas un schisme, c'est une réaction assez normale, sociale et psychologique, que les jeunes s'intéressent plus aux affaires du monde, surtout les bien étudiants.
Bien dit alors. Monsieur Gournou, vous avez participé à ces manifestations, vous avez vu de près les scènes de protestation, vous avez peut-être discuté avec ces étudiants. Alors, quelle est l'importance de ce mouvement? Est-ce que vous croyez que ce mouvement de protestation au sein des universités est à la hauteur de exiger, réclamer concrètement un cessez-le-feu, de mettre fin à cette campagne génocidaire en cours dans la bande de Gaza, à faire bouger les choses?
Franchement, il n'est pas à la hauteur de la gravité des événements. Il est très tardif. Maintenant, effectivement, il se propage en France et ailleurs. Mais l'explication est ce fait que dès le lendemain du 7 octobre, les mensonges, les manipulations, les propagandes diffusées par l'État israélien et son armée et sa presse ont été répercutées sans investigation réelle dans les médias français. Certains des médias sont publics, d'autres sont privés et certains même sont possédés par des hommes d'affaires israéliens de plusieurs nationalités ou des gens qui sont de droite et très favorables à l'État d'Israël. Donc, toutes ces manipulations qui ont pu être dégonflées, mais seulement quelques semaines après, au fur et à mesure des enquêtes et des révélations critiques, y compris de certains journaux israéliens comme Haaretz, qui est un peu plus indépendant et un peu plus critique, ou des organismes israéliens juifs ou juifs et palestiniens, qui ont révélé, qui ont démonté les mensonges du gouvernement. Mais ces mensonges, cette propagande a influencé à la fois nos médias et à travers les médias, le grand public qui a été un peu subjugué pendant longtemps par les événements du 7 octobre et par toute la présentation qui ont été faites et que c'est seulement au fil des semaines et au fil des mois que les gens réalisent mieux ce qui s'est passé, quelles étaient les intentions du Hamas, surtout prendre des otages pour faire libérer leurs 9 000 ou 10 000 prisonniers qu'ils ont dans les prisons israéliennes. Et donc, la vérité est apparue progressivement. Et du coup, ce soulèvement psychologique, ces manifestations, y compris dans l'université, ont pris de l'ampleur seulement tardivement, hélas. Ils n'ont pas pu. Et le gouvernement français, d'ailleurs, il a demandé, maintenant, il a appelé un cessez-le-feu, mais il a mis au moins 4 mois à le dire explicitement. Le gouvernement français a toujours dit, pour l'avenir, il faut que l'État israélien et son armée respectent le droit humanitaire, mais il n'a jamais condamné ce qui s'était passé depuis des semaines, depuis des mois. Il a toujours pris la précaution de ne pas froisser le gouvernement israélien qui est considéré comme un allié. Et donc ceci a un peu manipulé l'opinion. Parce qu'on croyait que la France agissait, et en fait elle ne faisait que parler.
Exactement, tout à fait d'accord avec vous pour ce mot tardif. Alors, Monsieur Cornou, s'agissant de cette répression des manifestations anti-israéliennes, toujours dans les universités occidentales, le monde entier a vu ce double standard, la répression de la liberté d'expression. On a assisté à cette répression de la liberté d'expression, à un double standard. Comment réagissez-vous et quelle est la conséquence de ces vidéos, de cette position?
Oui. Tout à fait, c'était un double standard. Il y avait les intentions des manifs en France, des manifestations, dès les premières semaines, comme on l'a bien constaté. Maintenant, les manifestations sont beaucoup plus autorisées et la plupart des cas où elles ont été d'abord interdites, les recours par les avocats des associations, des organisations, ont toujours gagné jusqu'à maintenant face au tribunal administratif ou à différents conseils dans lesquels on présente les recours. Mais, et le président Macron a récemment dit, il y a 5-6 jours, après l'incident à Lille avec une manifestation, plutôt une conférence qui avait été interdite, il a répété qu'on avait en France le droit à s'exprimer librement dans le respect de la loi. Et donc, c'est vrai qu'il y a encore des incidents à droite à gauche, que chaque fois, dans beaucoup de cas, les préfets tentent d'interdire une conférence. Ça a été ce soir, par exemple, une conférence et un débat qui devait avoir lieu à l'École normale supérieure, qui était quand même un des plus grands établissements français, très réputé de recherche, où elle était interdite et elle sera reportée quelques temps plus tard, peut-être dans d'autres conditions, dans d'autres lieux, on ne sait pas. Et je voudrais signaler aussi que dans une manifestation d'étudiants à Lyon, dans laquelle les policiers s'étaient approchés très proches des étudiants, et il y aurait pu avoir, des agressions dès qu'il y aurait eu un incident interprété comme illégal ou des propos considérés comme illégaux, les professeurs se sont courageusement réunis et interposés entre la masse des étudiants manifestants et les rangs de la police.
Merci beaucoup.
Je crois que cette solidarité entre les enseignants et les étudiants est très importante.
Encore un gros merci d'avoir accepté cette entrevue, Monsieur Cornou, et paix aux gens de bonne volonté et de libre esprit. Au revoir, à la prochaine.
Monsieur Dupré, je viens de lire un article qu'il avait publié récemment sur la crise de l'énergie après l'entrée en guerre en Ukraine et surtout après la hausse.
Merci beaucoup, Bernard Cornou. Alors, au revoir à toutes et à tous. À la prochaine fois.
Le tourisme gastronomique, également appelé tourisme culinaire, est un type de voyage touristique associé à la cuisine locale dans le but de découvrir l'histoire, le savoir-faire et la culture d'un pays à travers ses spécialités culinaires. Le tourisme gastronomique en Iran est une série de 36 émissions qui tente de faire découvrir à nos fidèles auditeurs la riche cuisine iranienne. Bonjour, chers auditeurs. Nous vous invitons aujourd'hui à nous accompagner avec une autre partie de la série d'émissions hebdomadaires « Tourisme gastronomique en Iran ». Dans ce programme, nous sommes venus dans la ville de Bijad, chef-lieu de la province du Khorasan du Sud, afin de connaître les deux plats locaux de la ville, le Shirini Luleï et le Ishkenerand. Restez avec nous. Bijand est le chef-lieu de la province du Khorasan du Sud qui a été construite à la fin de la période sassanide sur la base des traditions historiques de Bijand. La ville de Bijand est mentionnée dans des livres historiques, notamment les recueils de poésie des poètes iraniens tels que Hakim Nazari, Hamdullah Mostofi et Yarut Hamouri. Tout au long de l'histoire, Bijand a été détruite à plusieurs reprises en raison de graves tremblements de terre. Et il n'est pas possible de fournir une histoire précise et documentée de l'ancienne ville, mais Bijand actuelle a été fondée à partir de la période safavite entre 1736 et 1051 après Jésus-Christ. En raison de sa longue histoire, cette ville du Khorasan du Sud possède en son cœur des offres et des attractions précieuses et touristiques qui montrent la civilisation de cette terre ancienne. Parmi ces attractions touristiques, on peut citer la citadelle de Kola Farangi, le château de Bijand et le jardin et le manoir de Rahimabad. Dans les tombes anciens, il y avait un certain nombre de châteaux et de citadelles et de grands bâtiments à Bijand, dont certains sont toujours restés. Le but de la construction de ces bastions était de renforcer le système de défense et militaire. Le château de Bijand est le bâtiment historique le plus ancien et le plus grand de Bijand, situé sur une haute colline à l'entrée de la ville. La superficie du château de Bijand est d'environ 3000 mètres carrés. Dans la construction de ce château, des matériaux tels que l'argile, la boue et la pierre ont été utilisés. Le marché traditionnel de Bijand est également l'un des lieux touristiques de cette ville. Ce marché a conservé son ancienne structure depuis environ 300 ans et revêt encore une importance particulière pour les habitants de la ville. Il y a un ancien caravansérail dans son marché. La partie principale du bazar comprend différents bureaux commerciaux et compartiments où se font l'achat et la vente de différents produits et de nombreux bureaux commerciaux. Et pour cette raison, ce marché est aujourd'hui considéré comme l'un des lieux incontournables de Bijand et est très important tant sur le plan historique qu'anthropologie. L'artisanat de Bijand a de nombreux demandeurs. On peut citer les paniers, les plats, les vases et les passoires en paille que les femmes et les hommes locaux tissent à partir des branches de certains arbres, comme le saule, etc. En outre, un tissu traditionnel est tissé dans cette ville, qui est l'un des meilleurs tissus fabriqués en Iran en termes de matériaux et de propriétés, et s'appelle Barak Bofi. Comme les habitants d'autres régions d'Iran, les habitants de Bijand sont des gens hospitaliers gentils. Ils servent les invités avec de la bonne nourriture. Certains des plats locaux de la région comprennent les différents types de ishkane, dont le ishkane aux lentilles, le ishkane aux prunes, le ishkane rand, ainsi qu'une variété d'aliments préparés avec du kaye comme rourout bademjan, un repas à base d'aubergine, le kaye jaune et le pain bui. Par ailleurs, les deux friandises de Bijand sont très populaires, le shirini luleï et le pain refline. L'Ochejeni Lulei est l'une des friandises les plus délicieuses et les plus populaires parmi les habitants de la ville de Bijan et constitue un bon souvenir pour les touristes qui voyagent dans cette région. Pour préparer cette délicieuse friandise, on a besoin de 5 œufs entiers, une demi-tasse de sucre, une demi-tasse d'huile liquide, une tasse de farine blanche, une demi-tasse de poudre de cardamome, une demi-cuillère de café, une cuillère à soupe safran fondu, une cuillère à soupe poudre de cacao si désiré. Pour le préparer, versez d'abord le sucre dans un récipient, puis ajoutez-y les œufs et mélangez bien jusqu'à l'obtention d'un mélange lisse. Ajoutez ensuite la poudre de cardamome et mélangez bien. Ajoutez la vanille et la farine blanche et mélangez lentement. À la fin, ajoutez l'huile à vos ingrédients. La dernière étape consiste à cuire la pâte. Les habitants de Bijan utilisent un moule spécial pour la préparer. Commencez par chauffer le moule à feu de gaz, puis versez un peu d'huile dedans et versez une cuillère du liquide préparé à l'intérieur du moule. Attendez une minute pour que la pâte cuise. Ensuite, formez la pâte en forme de tube pendant qu'ils sont chauds. De cette façon, faites cuire tous les ingrédients avec un moule et ajoutez un peu de poudre de pistache pour le décorer. Chers auditeurs, dans la dernière partie du programme, nous souhaitons faire connaissance avec un plat populaire parmi les habitants du chef-lieu de la province de Khorasan du Sud, Ishkanerand. Avant tout, il faut dire que Ishkane est l'un des plats populaires parmi les habitants des villes du désert d'Iran et il en comprend différents types. Le Ishkanerand est un aliment dont la cuisson se fait en milieu liquide et qui se mange avec du pain. Dans un livre, Nader Mirza, un prince appartenant à la dynastie Afshariyeh, a mentionné à propos d'Ishkane, « Le Ishkane est un ragoût qui est servi avec du pain et est très savoureux et facile à cuisiner rapidement. S'il n'y a pas de nourriture prête à la maison, ou bien les habitants du désert et du village n'ont pas accès à la viande, à quoi que ce soit d'autre, ils cuisinent le Ishkane. » Préparer le Ishkanerand, la nourriture locale des habitants de Bijan, on a besoin de cuillères à soupe de beurre, de cuillères à soupe de farine de riz, 2 tasses d'œufs, 2 cuillères à soupe de jus de citron, 4 noix moulues, 1 cuillère à café de cannelle, 1/2 cuillère à café de safran trempé et épais et de sucre en poudre selon ses envies. Pour cuisiner le Ishkanerand, placez d'abord une poêle à paroi longue sur feu doux et versez-y le beurre jusqu'à ce qu'il soit chaud. Versez ensuite petit à petit la farine de riz dans la poêle et faites-la revenir avec une cuillère en bois à long manche jusqu'à ce qu'elle change de couleur. Remuez continuellement la farine pour qu'elle ne colle pas et ne brûle pas. Lorsque la couleur de la farine devient brune, ajoutez de l'eau petit à petit et mélangez bien. Versez les noix, la cannelle, l'eau de rose, le sucre en poudre et le jus de citron dans la casserole et attendez qu'elle boue et qu'elle épaississe. À la dernière étape, au moment d'éteindre le gaz, ajoutez du safran pour doubler l'arôme de Ishkane. Si les aliments deviennent grumeleux pendant la cuisson, vous pouvez les verser dans le robot culinaire et les mixeurs.
Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.